Je suis une élève de l'Ontario et mon monde est tout le temps en train de changer. Je vis dans un monde où la technologie est partout. Je peux communiquer avec des amis d'une autre partie de la planète aussi facilement qu'avec ceux qui vivent à côté de chez moi. Quand je finirai l'école secondaire, j'entrerai dans un monde qui sera plus concurrentiel et plus branché que jamais. Je serai préparée pour ce monde grâce à mon éducation. Mon école sera un lieu où nous réussirons, mes amis et moi, quelle que soit notre origine. Un lieu où nos enseignants seront nous motivés et nous donner envie d'apprendre à l'aide des nouvelles technologies. La diversité ne sera pas un obstacle, mais plutôt un facteur de notre réussite. Nous développerons la force de caractère nécessaire pour surmonter les obstacles et être résilients, quels que soient les défis qui se présentent à nous. Nous nous sentirons à l'aise et en sécurité, et nous saurons qu'on se soucie de notre bien-être à l'école et ailleurs. Nous serons les innovateurs, les bâtisseurs communautaires, les créateurs, les travailleurs spécialisés, les entrepreneurs et les leaders de demain. En tant qu'élève de l'Ontario, j'atteindrai l'excellence.
Monsieur, bien le bonjour, où que vous soyez à travers la planète, vous êtes nombreux à nous écouter aujourd'hui, une émission un peu spéciale. Popourri Show, 32 ans, 33 ans déjà. Nous sommes à Hot House à l'Université de Toronto, Ontario, Canada. Et vous pouvez nous écouter partout sur la planète à www.cut.fm pour nous joindre en direct. C'est le 416-946-7000. La ligne risque d'être très occupée aujourd'hui. Allez retrouver toutes nos émissions, y compris les émissions pendant notre absence, sur le site avec RFI, www.popourishow.com. Et dans le feu de l'action, avant le grand départ, l'ingénieur du son est prêt. DJ Dovera, Sloan Ballant, production animation, votre serviteur Eric Kader, live, en direct. Sur www.cut.fm. Et vous souhaitez participer à nos émissions? Ah oui, vous pouvez toujours nous écrire, nous envoyer vos commentaires, vos réactions, popourri@cut.fm. Un bonjour chaleureux aux auditeurs internautes à Plougastel, Daoulas, qui nous écoutent en ce moment, nos amis de Rennes en Bretagne que nous allons rencontrer demain, et des amis de Bordeaux qui sont nombreux à nous écouter, et les collègues à RFI, Paris, Et on vous dit qu'il y a des auditeurs très branchés dans la région d'Ottawa et à Québec avec le 60e anniversaire de ce salon du livre. Et j'apprends que la littérature algérienne est à l'honneur. Saint-Denis, l'île Maurice, l'île de la Réunion à Saint-Denis, oui, Port-Louis, île Maurice. Les membres de l'association des enseignants, enseignantes francophones de l'Ontario sont nombreux. Eh oui, eh oui, eh oui, on parle de vous aujourd'hui. Et puis notre collègue journaliste à hashtag ONFR TFO, Étienne Fortin-Gauthier, est peut-être à l'écoute. Il était à l'écoute la semaine dernière. Et notre radio, comme vous le savez, est menacée avec le gouvernement actuel, nouvelle politique. Donc, plus que jamais, cette fois-ci, lors de notre campagne de levée de fonds, le mois prochain, nous avons besoin de vous. Si vous avez des idées pour relancer notre campagne de levée de fonds, écrivez-nous. Et merci encore à tous ceux et celles qui ont envoyé des lettres d'appui et des pétitions, signé des pétitions auprès de leurs députés. Allez sur le site www.cut.fm pour en savoir plus. Sinon, envoyez-nous vos idées. C'est pas très très joli. D'ici septembre, il se pourrait que la station capote. Et oui, je concours aujourd'hui l'expression que nous avons entendue cette semaine, bisbille. Et oui, entre le fédéral et le provincial et peut-être la FOUD, l'Assemblée de la francophonie ontarienne. Et ouais, ça fait la manchette cette semaine. Répondez, courez la chance de gagner des places pour les projections de l'événement de l'année. Non, du mois. Perspective Québec. Avec Ciné Franco, Marceline, qui sera des nôtres d'ailleurs avant la fin de l'émission. Des premières québécoises, 19 et samedi 20 avril, ici même à Toronto. Et je vous offre aussi de très jolies porte-clés de Paris que nous venons de recevoir. Qu'est-ce que cela veut dire, être en bisbille avec quelqu'un? Envoyez-nous vos messages sur popourri@cut.fm. Dans un instant, le menu de ce dimanche 14 avril. Le menu de ce dimanche, malgré les nombreux postes disponibles sur le site d'emploi Indeed et la pénurie des enseignants francophones, les enseignants francophones diplômés à l'étranger et issus de la diversité sont frustrés. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce sont les articles parus dans le journal L'Express de Toronto récemment et sur le site hashtag ONFR. Qui nous informe que 70% des enseignants blancs franco-ontariens auraient répondu lors d'un sondage que les enseignants issus de la diversité sont incompétents. Et on me dit aussi que cela s'est passé lors d'un congrès de l'AEFO, l'Association des enseignants francophones de l'Ontario. C'était au mois de février dernier. Et après les rebondissements des articles de Toronto Star et des médias francophones sur un certain organisme censé aider les nouveaux immigrants, des enseignants, un groupe de parents issus de la communauté noire réclament des comptes à l'Association des enseignants et des enseignants franco-ontariens. Alors, on verra bien la réponse de l'AEFO aujourd'hui. Et nous avons reçu un communiqué de l'AEFO, me dit-on. Et ça se discute donc de 11h30 à 12h30 environ avec des invités et nos sincères remerciements à nos invités extrêmement courageux et les auditeurs qui ont envoyé leur témoignage par mail. Nous disons bien le bonjour et merci à Monsieur Benoît Hubert, président directeur général chez PGF Consultants et le messager qui a annoncé les résultats de ce fameux sondage. Parmi nous, un autre invité, Michel Clément Yonta Ngné. Et oui, il est enseignant à l'école catholique Pierre Savard à Ottawa et participant au congrès de l'AEFO au mois de février. Merci Clément. Rachel Descostes de la région d'Ottawa, femme engagée, activiste, chroniqueuse, spécialisée en diversité et multiculturalisme dans la région de la ville d'Ottawa. Bertrand Defoe, il est fondateur et directeur de Educ Nation Consulting Inc. et un cabinet de consultation en éducation qui travaille avec plusieurs collaborateurs actifs en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, en Europe et en Afrique. Il sera des nôtres. Et pour faire le point de cette tournée d'horizon, et nous recevrons avec plaisir Dr Amadou Ba, qui est lecturer, conférencier sur l'histoire des Noirs au Nipissing University North Bay. Pourquoi North Bay? Et il est chargé de cours à l'université Laurentienne, Sudbury. Il est détenteur d'un doctorat en histoire et d'une maîtrise en sciences politiques, critique, auteur et chercheur. Il nous écoute en ce moment sur Internet. Bonjour, professeur. Et puis, une fois de plus, la radio déplore l'absence de l'association des enseignants, enseignantes franco-ontariens, mais ils nous ont envoyé un communiqué. Un petit communiqué que nous lirons pendant ce débat. Et oui, plusieurs réactions des auditeurs la semaine dernière. On en parle un peu partout, mais en même temps, il y a des gens, des auditeurs qui aimeraient bien qu'on fasse une émission sur les membres LGBT, francophones et transgenres et leurs défis dans les écoles de langue française. Alors voilà, une très belle suggestion. Notre amie de toujours, Marceline, fondatrice de Ciné Franco, nous invite aujourd'hui à l'événement du mois réalisé conjointement avec Québec Cinéma et Ciné Franco, Perspective Québec, les 19 et 20 avril prochains, présenté en grande première le dernier documentaire de Fernand Dansereau, Le Vieillage et l'Espérance, très beau film. Sera dévoilé au public le 19 avril prochain. Malheureusement, nous ne serons pas au pays. Perspective Québec, un événement conjoint de Ciné Franco et de Québec Cinéma qui donne accès à des premières québécoises au public, toute origine confondue, hein, francophone, francophile, de la belle ville de Toronto. Ainsi, le 19 et 20 avril, 5 longs et un court métrage québécois seront diffusés en présence de plusieurs réalisateurs et réalisatrices. Perspective Québec 2019, une programmation de primeur. Allez sur le site de Ciné Franco pour réserver vos billets www.cinéfranco.com et je vous rappelle, des billets sont ici pour vous. Un bonjour spécial à Janine Maya, fondatrice de FKZOO, qui sera peut-être des nôtres en partenariat avec notre émission pour célébrer les 40 ans de CASAV, 40 ans déjà, et Popourri Show et CIUT les a parrainés plusieurs fois ici à Toronto, des grands concerts, beaucoup, beaucoup de succès. Si cela vous intéresse, vous voulez faire partie de nos partenaires, faites-nous signe immédiatement, popourri@cut.fm. Popourri Show, 33 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence. Et oui, toute l'équipe vous remercie pour vos témoignages et votre confiance suite à l'émission de dimanche dernier. Nous avons reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires, beaucoup de rencontres, beaucoup de lettres, de courriels. Par contre, cela ne fait pas l'affaire de tout le monde et en particulier une auditrice. Je viens de recevoir ce matin une lettre, quelques mots de la direction de la radio. Qui ne veut pas d'ailleurs dévoiler le nom de cette personne. On vient donc de me remettre ce mot me demandant de m'excuser suite à mes propos sur l'ancienne DG, directrice générale du Centre francophone. Alors je présente toutes mes excuses à Madame Lise-Marie Baudry. Mais je tiens à rappeler que jamais je reprends des nouvelles, ce qui est déjà connu dans les médias. Entre autres, c'était sur le site de Radio-Canada et le journal L'Express de Toronto. Et aussi les appels des anciens employés du Centre francophone. Mais je préfère cesser toute polémique et je présente mes excuses si Madame Lise-Marie Baudry s'est sentie offensée par mes propos. Et si CIUT FM prend très au sérieux toute information qui risque, je dis bien qui risque, d'atténuer à la réputation de ses invités, de ses bénévoles, de ses animateurs, et donc la lettre est prise très 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 au sérieux. Merci à cette auditrice. Et oui, l'affaire de l'organisme communautaire, la passerelle, idée et les enquêtes en cours causent beaucoup de peine et d'insécurité chez les immigrants qui en sont sidérés, surtout les femmes réfugiées qui recevaient des conseils et des services essentiels à la passerelle. Pour plusieurs, la passerelle était un point d'attache important. Et il s'attendait pas du tout d'être au cœur d'un scandale de cette envergure. Selon Hashtag ONFR et Radio-Canada, la directrice générale de Choc FM, la radio communautaire de Toronto, et membre du CA de la passerelle, a claqué les portes pour une deuxième fois. En une semaine, la passerelle a dénoncé avec force les propos de la démissionnaire et a blâmé le journaliste de Hashtag ONFR, qui a publié une entrevue sur ce sujet. Et je vous rappelle que nous n'avons aucune preuve sur les allégations pour le moment portées contre la passerelle. Ce ne sont que des soupçons qui pèsent sur la passerelle. Et plus personne n'a été trouvé coupable et laissons plutôt la justice suivre son cours. Nos pensées sont bien sûr avec tous ceux et celles, et surtout les employés qui sont affectés par toute cette histoire. Le mea culpa du journal L'Express de Toronto, par la voix de son directeur en chef François Bergeron. Il a admis que le journal L'Express de Toronto était bel et bien au courant des problèmes à la passerelle, mais manque de ressources et de temps n'ont pas permis à L'Express de procéder à une enquête journalistique. La communauté française de l'Ontario, pour sa part, et certains chefs de file francophones sont surpris du silence de l'Assemblée francophone de l'Ontario, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, voilà, et le consul général de France. Et en dernière heure, selon nos sources, le quotidien Toronto Star évalue des informations et d'autres pistes à suivre. En Ontario, au lendemain du dépôt du premier budget de M. Doug Ford, le Ford Nation, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer avec vigueur les réductions importantes dans les programmes de la petite enfance, les services juridiques qui voient leur budget réduit de 30% et le budget des affaires autochtones réduit de moitié. Et l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario voit d'un bon œil le renouvellement du budget $1 million du programme d'appui à la francophonie ontarienne, mais demeure vigilante. Accueil plutôt froid de la part des acteurs en éducation et l'Association des enseignants-enseignantes franco-ontariens. Et enfin, d'ici l'année scolaire 2024-2025, 60% du financement public des collèges et universités de l'Ontario sera lié à leur rendement. Et oui, beaucoup de questions demeurent selon les professionnels et les réactions sont divisées au sein du milieu universitaire. Je vous rappelle que Doug Ford se donne 5 ans pour éliminer le déficit en Ontario. Et au Québec, la nouvelle loi sur la laïcité continue à faire des manchettes avec des débats musclés. Et oui, dans les médias surtout, climat tendu dans certains milieux au Québec. Je vous rappelle une première au Canada, très très bonne nouvelle pour les francophones, je pense, du pays. La Cour suprême du Canada a accepté jeudi matin d'entendre la méga cause sur l'éducation en français qui oppose le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique au gouvernement de la province. Dans cette affaire lancée en 2010, les plaignants demandent au gouvernement provincial d'offrir aux enfants britanno-colombiens une instruction équivalente dans les deux langues officielles. En choisissant d'accepter la demande d'appel du Conseil scolaire et de la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique, le plus haut tribunal du pays confirme donc qu'il s'agit d'un dossier d'intérêt national, souligne Mark Power. Il est l'avocat des plaignants et la Cour s'intéresse non seulement à la francophonie de la Colombie-Britannique et à son rapport avec le gouvernement provincial, mais aussi aux conséquences ailleurs au Canada, précise-t-il, un dossier à suivre avec intérêt. Et sur la scène internationale, en France, gilets jaunes, un samedi tendu À Toulouse, c'était hier, bien sûr, plus calme ailleurs. Place à Beauvau, recensé quelques 31 000, seulement, gilets jaunes dans toute la France. Ces rassemblements interviennent comme une répétition pour chauffer les troupes avant la grande journée promise par les gilets jaunes le 20 avril prochain, après les annonces d'Emmanuel Macron. Et on sera dans les rues de Paris. Et en Algérie, la contestation ne faiblit pas. Les Algériens veulent se débarrasser tous ceux qui ont des liens avec l'ancien pouvoir. Journal ou magazine Jeune Afrique et RFI Afrique qui émettent des analyses assez intéressantes, je trouve. Après l'Algérie, le vent de changement se poursuit cette fois au Soudan, qui est Abdel Fattah al-Burhan, le nouveau général à la tête de la transition. Et oui, et puis je vous rappelle, le 18 avril prochain, un rendez-vous à ne pas manquer avec notre grand ami et décoré maintenant de l'Ordre du Canada, professeur Eddy Bouraoui, qui nous écoute peut-être. Bonjour professeur. Croisez des mots à la Bibliothèque publique de Toronto. Et bien sûr, notre invité, c'est le docteur professeur Eddy Bouraoui, grand poète et écrivain. Et c'est un professeur émérite qui est avec nous depuis le début de notre aventure à la radio. Le 18 avril prochain, donc à partir de 18h30, Eddy Bouraoui à la Bibliothèque publique de Toronto, coin Bloor et Yonge. Et puis, je vous rappelle que nous avons reçu plusieurs appels de la part de personnes qui aimeraient passer à la radio aujourd'hui, mais malheureusement, le temps téléphone, malheureusement. Hein. Et nous avons plusieurs invités qui nous écoutent, qui aimeraient envoyer des messages. Entre autres, j'ai reçu des lettres de maires francophones très engagés dans la région de Toronto, qui est très intéressé par le sujet d'aujourd'hui. Peut-être j'aurai le temps de lire cette lettre de la part de cette auditrice, si elle est là. Alors, commentaire de la part des auditeurs. On commence avec une mère francophone engagée. Très belle émission, merci pour tout votre travail et les risques que vous prenez. Ah, ça c'est un monsieur plutôt. Depuis plus de 30 ans, j'ai abandonné le domaine de l'enseignement parce que on m'a toujours rejeté pour des postes de surintendant, pour un poste de surintendant, je pense, c'est ça. Vous devriez parler du cas d'Alfred Abouchard et d'autres cas qui sont très connus, qui sont publics, Toronto, Ottawa, des enseignants qui ont poursuivi les conseils scolaires. Je ne comprends vraiment pas pourquoi, 30 ans après, c'est toujours le même débat. C'est comme le débat organisé l'année dernière sur la définition d'un franco-ontarien. Pendant ce temps, on crève de faim, on nous discrimine et on ne nous donne pas accès à des postes de gestion. Et à chaque fois, il y a une personne qui gravit les échelons, on la discrédite et on trouve toutes sortes de raisons pour la faire disparaître. Parlons du cas de M. Wesley Romulus et d'autres cas de francophones très, très, très intelligents, très professionnels. Et je suis prêt à vous fournir des noms cordialement. Lettre assez dure. On a du temps encore. Bonjour, c'est avec tristesse que j'ai pris connaissance de la polémique qui sera discutée lors de votre émission du 14 avril. J'aimerais m'exprimer en tant que mère de deux enfants du conseil scolaire Viamonde à Toronto. Car au cours des 7 dernières années pendant lesquelles mes enfants ont été scolarisés à Toronto, ils ont eu plusieurs enseignants. Chacun d'eux a été formidable à sa façon, chacun avec son individualité, sa façon de faire. Certains étaient originaires d'ici et d'autres d'ailleurs. Pour le sujet d'aujourd'hui, je suis en particulier reconnaissante à l'enseignant de mon fils aîné lorsqu'il était en deuxième année, Monsieur Issa Amadou. Il a commencé comme remplaçant temporaire et a fini par accompagner les élèves jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, il enseigne toujours dans cette école qui a su reconnaître son talent. Il y a aussi eu la douce Madame Hinde Orhin Livingstone, enseignante de maternelle originaire du Maroc. Elle était adorée par mon fils à 4 ans et aujourd'hui était promue directrice d'école, sans oublier Madame Fadila, qui a su faire comprendre à mon fils qu'à l'école, on apprend à lire et écrire, mais aussi comment être un bon ami. Je n'ai que merci à dire à tous ces gens qui aident mes garçons à apprendre et à grandir. Je vous remercie cordialement. Voilà une mère de famille engagée dans la région de Toronto. On a encore du temps ou bien deux secondes, voilà. Sur hashtag ONFR, il y a une série d'articles, je pense, très très intéressants. Ils font du beau travail, hein, du bon boulot, hashtag ONFR. Alors, mon accent, ton problème, les accents des autres. Imaginez si votre accent faisait en sorte que vous fassiez constamment juger. Mais aussi, on parle de cette polémique dans le monde de l'éducation. Alors, il y a un article titré « Malgré la pénurie d'enseignants de langue française en Ontario, les étudiants francophones venus d'Afrique peinent à intégrer la profession », remarque une chercheuse de l'Université d'Ottawa. Les conseils scolaires vont en Europe, tenez-vous bien, pour recruter des enseignants alors que nous avons chez nous des gens formés qui ne trouvent pas d'emploi. C'est une richesse incroyable qui est perdue, c'est sur hashtag ONFR, hein, j'invente absolument rien. Cette contradiction, la chercheuse à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, Phyllis Daly, en a été témoin. Et oui, on en parle d'ailleurs, on en discute avec des professeurs, des enseignants qui seront des nôtres, mais on sent qu'il y a vraiment une frustration chez les enseignants issus de la diversité. Ne partez pas, madame, monsieur, soyez des nôtres, envoyez-nous vos commentaires, peut-être assez mieux par courriel, popourri@cut.fm. Le grand débat commence dans un instant. Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de services. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
CIUT 89.5 Toronto.
Écouter est la plus grande des qualités. Écouter les enfants, les parents, les professeurs et les coéquipiers. Les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écouter. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre, que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nom.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Et oui, madame, messieurs, bienvenue à Popourri Show. Nous recevons encore par courriel, mais aussi sur notre page Facebook, Marc Albert Cormier, qui nous a envoyé un très beau message que je vais lire avant la fin de cette émission. Ce sera fait, ne vous en faites pas. Mise en contexte. Le 28 février au 6 avril 2008, à l'invitation de l'AEFO, c'est l'Association des enseignantes-enseignants francophones de l'Ontario, vous aviez ou deviez remplir un sondage en ligne sur la diversité en milieu éducatif francophone en Ontario. Et d'après le contenu de cette information, de ce sondage, ça avait pour but de recueillir les données concrètes sur la diversité, cette diversité, lesquelles permettront de dresser un portrait de la gestion de la diversité et de l'inclusion dans le milieu de l'éducation. Objectif ultime étant une meilleure intégration, une plus grande harmonie et une cohérence sociale améliorée dans nos communautés francophones. Le 23 février 2019, à l'hôtel Hilton, Toronto, Airport de Mississauga, lors de l'assemblée annuelle de l'AEFO, M. Benoît Hubert, président et propriétaire de PGF Consultants, firme qui a conçu et mené en partenariat avec Consilium Capital Humain le sondage sur la diversité en milieu éducatif francophone en Ontario, a présenté les résultats de ce sondage. Et les résultats ont été répartis en deux grands groupes, les données quantitatives et les données qualitatives. Et à la stupéfaction de tous, M. Benoît Hubert a dit aux 166 membres délégués et aux personnes invitées, pour ce qui est des données qualitatives du sondage, 70% des enseignants et enseignantes de la majorité des enseignants-enseignantes blancs franco-ontariens affirment que les enseignants-enseignantes issus de la diversité sont incompétents. Cette affirmation a eu l'effet d'une bombe. Les enseignantes et enseignants de la diversité étaient stomaqués, choqués de voir invectivés et humiliés en public. Dans un instant, le messager qui a fait cette annonce est avec nous. Dans un instant. Et oui, ça se discute jusqu'à 12h30, madame, monsieur, et merci encore à tous nos invités. Monsieur Benoît Hubert, président directeur général chez PGF Consultants, il est avec nous. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur Balan.
Non, c'est Éric Kader qui vous parle en ce moment, comme j'ai annoncé au début de l'émission. Oui, ça va.
Bonjour.
Alors, vous êtes ce fameux messager dont tout le monde se pose la question. Parlez-nous un petit peu justement, parce que les gens me demandent quels étaient les critères dans ce sondage pour que les participants émettent un rapport sur les immigrants ou les professeurs, les enseignants issus de l'immigration qui soient incompétents. Est-ce qu'il y avait un critère dans les questions de votre sondage?
Alors, merci beaucoup de m'accueillir à votre émission. Donc, effectivement, je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous et avec vos autres invités, s'il y en a. Donc, PGF Consultant est établi en francophonie canadienne depuis 1988. Et notre équipe travaille également sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale aussi depuis plus de 15 ans. Et notre démarche, initialement, il y a plus d'un an, en approchant la EFO, visait effectivement à ouvrir le dialogue sur le sujet de la diversité parce que depuis que nous travaillons auprès des communautés francophones et acadiennes avec des organismes comme l'Assemblée de la francophonie, la Société franco-manitobaine, les universités et autres, nous avons constaté au fil des ans qu'à chaque fois qu'un plan stratégique se développait, que l'enjeu de la diversité et de l'inclusion revenait. Parce qu'effectivement, il s'agit d'un sujet qui est quand même complexe, sensible, qui évoque des passions. Et soucieux de ça, nous avons proposé à la EFO de mener une démarche auprès de leurs membres pour, comme vous l'avez dit en entrée de jeu, comprendre un peu l'état de la gestion de la diversité dans un secteur d'activité, soit celui de l'éducation qui est d'ailleurs très important pour nos communautés. Mm-hmm. Et nous avons effectivement donc mené ce sondage en ligne auprès des membres. Sondage effectivement qui a porté notamment sur des cultures, la culture d'inclusion, les politiques d'inclusion et les pratiques inclusives. Et puis vraiment le sujet et l'objet visait à permettre le dialogue et la réflexion. Et puis je suis très content que nous puissions ouvrir le sujet. Mais malheureusement, la donnée que vous avez mentionnée est totalement fausse. Et puis je ne sais pas si vous avez pris la peine d'écouter l'enregistrement audio qui est disponible d'ailleurs de ma présentation. Il n'a jamais été question de l'information que vous avez citée, mais il a été question effectivement d'enseignants, disons, issus de la majorité, moins d'une trentaine d'ailleurs, qui ont questionné des capacités de certains de leurs collègues issus de la diversité. Alors, il s'agit sans doute d'incompréhension, de préjugés et qui, effectivement, confirme notre hypothèse du besoin d'ouvrir le dialogue, la réflexion
donc,
et la discussion entre collègues.
Donc, vous acceptez que au sein, je ne dis pas que tout le monde pense comme ça, hein, attention, au sein du corps enseignant francophone de l'Ontario, il y a des éléments qui, en effet, voient leurs collègues issus de la diversité comme étant incompétents.
Je ne dirais pas incompétent, ce n'est pas le terme que nous avons vu dans les données. Le terme qui était revenu, c'est celui de manque de qualification. Mais écoutez, il faut faire attention dans l'interprétation parce qu'il s'agit de moins d'une trentaine de personnes. Et effectivement, il s'agit probablement et possiblement, parce que ce sont des commentaires écrits que l'on a analysés. Et donc, il s'agit possiblement de préjugés, d'incompréhension. Et c'est pour cette raison, justement, que ça soulève des passions, des émotions, comprends.
Est-ce que, donc, il y a une lettre qui circule en ce moment, parce que je sais qu'il y aura un dialogue entre M. Rémi Sabourin, qui est le président de l'AUFO, et les enseignants issus de la diversité qui aimeraient avoir une réunion avec M. Sabourin pour avoir des éclaircissements et peut-être aussi voir le chemin à suivre, quelles sont les étapes à suivre pour corriger le tir. Parce que si jamais il y a 30 enseignants franco-ontariens de souche, de race blanche, qui pensent comme ça sur les enseignants, il y aura toujours ce clivage, il y aura toujours des incompréhensions. Et aussi au niveau des postes, c'est ça que j'aimerais beaucoup parler à M. Rémi Sabourin pour voir quel est son plan d'action. Est-ce qu'il y a un genre de plan au niveau de l'équité en matière d'emploi, justement, pour reconnaître les talents venant d'ailleurs. Parce qu'on vit une pénurie très grave sur les enseignants, manque d'enseignants francophones à travers le pays, pas seulement en Ontario, à travers le pays. Donc, il faudrait peut-être s'ajuster et innover pour que ces gens qualifiés, que ce soit en Europe, il y en a beaucoup, on me dit là, de France, de la Suisse, de la Belgique, qui sont ici et qui ont essayé, qui ont tenté plusieurs fois et malheureusement, ils ont décidé de tourner le dos et de faire autre chose. Alors, donc, comment est-ce que l'AEFE va s'y prendre pour... Parce qu'il y a des étudiants actuellement qui n'ont pas de professeurs dans des salles de classe. En Ontario et au Québec. Vous êtes au courant de ça?
Oui, je suis au courant de la pénurie. Puis écoutez, je ne peux pas parler au nom de l'AEFO, mais je pense qu'effectivement, la question les préoccupe au plus haut niveau. Et je pense qu'effectivement, il faut constater aussi qu'il y a eu, au cours des dernières années, comme les résultats de notre sondage l'ont démontré, beaucoup d'améliorations en termes des politiques et des pratiques mises en place dans les conseils scolaires. Mais force est de constater qu'il y a toujours place à amélioration. Mmh. Et ici, on cite seulement le milieu de l'éducation, mais vous savez que dans le milieu de la santé, il y a là aussi des pénuries. Et il y a là aussi une main-d'œuvre qui arrive de l'international et qui est fondamentalement importante pour la réussite de nos institutions de santé et autres. Et ça va de ça dans tous les secteurs. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, je pense qu'on a besoin d'ouvrir le dialogue dans tous les secteurs et d'aborder ce que sont parfois des stéréotypes, des préoccupations, avec, je dirais, humilité, courage, parce qu'il y en va de la survie même, de l'évolution de notre de nos communautés francophones ici.
Monsieur Benoît Hubert, je vous remercie infiniment. Nous avons 4-5 invités là qui sont avec nous. Alors donc, on va suivre ça de très très près, mais on salue votre courage et votre temps ce dimanche matin. Vous savez, vous êtes écoutés à travers la planète. Il y a des gens de l'île Maurice qui nous envoient des messages, de l'île de la Réunion, de Haïti. Et tout à l'heure, nous allons parler à un des enseignants qui était sur place, qui nous a signalé et que les médias d'ailleurs ont repris, monsieur Clément Yonta Inyungé, et qui est enseignant à l'école catholique Pierre Savard à Ottawa. Je vous remercie infiniment et faites continuer votre beau travail, monsieur Hubert.
Merci infiniment et j'ai hâte de parler à monsieur Clément d'ailleurs et à tous les autres parce que je pense qu'ensemble on ira plus loin que seul, comme de le dit si bien le dicton africain. Merci de votre invitation.
Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
Voilà. Dans un instant, madame, monsieur, Clément Yonta Inoumé, enseignant à l'école catholique Pierre Savard. Selon le résultat d'une étude parue dans le Toronto Star en 2015, de nombreux enseignants noirs en Ontario sont confrontés au racisme au travail. Ils sont 148 enseignants noirs dans 12 conseils scolaires de langue anglaise et ils racontent leur calvaire. C'est un document du journal Toronto Star. Je pense aussi que c'est sur le site TVA Nouvelles à Montréal. Qu'en est-il dans la cour d'école francophone? Qui a osé dire que 70% des enseignants blancs franco-ontariens considèrent que les enseignants issus de la diversité sont incompétents? Est-ce vrai ou c'est une affaire montée de toutes pièces? Ça se discute avec des auteurs de ce fameux sondage, mais aussi des invités, y compris des enseignants, des experts, historiens issus de la diversité francophone. Pour nous joindre et mettre vos commentaires ou encore des recommandations, des suggestions, quoi faire, comment aller plus loin ensemble tout en dialoguant et en se respectant. Popourri@cut.fm, Popourri Show. 33 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence. Et nous avons monsieur Clément Yonta Inguné, enseignant à l'école catholique Pierre Savard à Ottawa, et il était présent lors de ce congrès de l'AEFO au mois de février. Bonjour Clément.
Oui, bonjour Eric.
Oui, alors vous avez entendu les propos de M. Hubert?
Oui, j'ai bien entendu ses propos.
Mmh. Et qu'avez-vous à dire? Est-ce que il y a eu un malentendu? C'est vous qui n'avez pas compris et que c'est seulement un malentendu et qu'il ne s'est rien passé?
Non, non, je l'ai bien entendu. J'étais à l'Assemblée, comme vous l'avez dit.
Mmh.
Ce que j'ai entendu lorsque M. Benoît Hubert a présenté les résultats du sondage, il a bien affirmé que 70% les enseignants issus de la majorité disent que les enseignants issus de la diversité sont incompétents. Et comme vous l'avez lu dans un message que vous avez reçu, les enseignants issus de la diversité qui étaient présents à l'Assemblée étaient estomaqués et choqués.
Mmh.
Et lorsque la présentation s'est terminée, nous étions rendus au dîner, donc nous n'avons pas eu l'occasion de poser des questions. Donc aucune question n'a été posée en salle d'Assemblée plénière.
Laissez-moi vous dire ce que M. Rémi Sabourin dit, il est le président de l'AEFO. Il dit « La version écrite et la version verbale de la présentation faite à l'Assemblée annuelle ne faisant aucune mention de ce qui est allégué par le groupe de suivi des enseignants-enseignantes de la diversité. » Donc, il y a un malentendu là entre la version écrite et la version verbale. Qu'en dites-vous?
J'étais présent à l'Assemblée, M. Kader, et je vous parle là des faits. Je vous dis ce que j'ai entendu et je vais ajouter avec les démarches que j'ai faites pour m'assurer que ce que j'avais bien entendu, c'était bel et bien ça. Donc, j'ai rencontré M. Benoît Hubert à la sortie de la salle de l'Assemblée plénière, juste lorsqu'il a terminé sa présentation sur le sondage. Je l'ai abordé pour lui demander quels sont les critères que vous avez mis de l'avant pour que les enseignants de la majorité puisse évaluer la compétence ou l'incompétence des enseignants issus de la diversité. Il m'a répondu ceci, aucun critère n'a été soulevé, aucun critère n'a été proposé. Je lui ai donc demandé de savoir, est-ce donc des préjugés, est-ce juste des perceptions? Il m'a dit oui, ce ne sont que des perceptions. Et il a même ajouté, je suis content que vous soyez venu me voir en dehors de l'Assemblée pour me poser la question. Donc, c'est à partir de ce moment que je me suis dit, ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le lendemain, le 24 février, à l'Assemblée, j'ai reposé la question avant la clôture de l'Assemblée, devant les 166 membres et invités qui étaient présents, pour qu'on puisse répondre. Et j'ai soulevé que c'était problématique de certains membres de l'AFO, car c'est d'autres d'incompétents et qu'il fallait que l'AFO se prononce dessus. Encore là, je n'ai eu que des réponses politiques. Alors, je n'ai pas, et aucun membre présent à l'Assemblée, encore moins les représentants de l'AFO, ne m'ont dit que vos propos ne sont pas les propos tenus par M. Benoît Hubert. Donc, voilà la réalité de ce qui s'est passé.
Et est-ce que vous avez parlé au président de l'AFO, M. Rémi Sabourin? Est-ce qu'il est au courant de vos agacements, vos questions, votre déception?
Ils sont au courant parce qu'une lettre leur a été adressée officiellement le 20 mars pour les saisir des faits ou de ce qui s'est produit à l'Assemblée annuelle et du malaise qui est en train d'être vécu au sein des enseignants, des enseignantes et enseignants issus de la diversité. Donc, ils ont été saisis.
Est-ce que les gens, les enseignants de la majorité, pour ne pas dire de race blanche, qui étaient là, est-ce que eux aussi, ils ont entendu le même message de la part de M. Hubert? Et quelle était leur réaction?
Je ne peux pas vous dire quelle était leur réaction, mais ce que je vous dis, le 24 février, j'ai posé la question publiquement à l'Assemblée pour savoir ce qu'il fallait faire de tout ça. Le fait que certains enseignants, la majorité, disent que d'autres sont incompétents. Il y en a qui étaient comme, qu'est-ce qui se passe? Mais comme je vous dis, sur le coup, nous n'avons eu que la réponse des dirigeants de l'AFO. On n'a pas donné l'occasion aux membres présents de s'exprimer sur le sujet avant la clôture de l'Assemblée, malheureusement. Mmh. Ça aurait été peut-être une occasion de désamorcer ça, mais ça n'a pas été fait.
Est-ce que il y a vraiment un problème dans le corps enseignant francophone en Ontario? Est-ce que il y a des anecdotes, il y a des histoires, pas seulement des rumeurs là, mais vraiment des cas où des enseignants ne sont pas bien vus, perçus et bien traités de la part de la majorité?
Ben, je ne suis pas en mesure de vous répondre, de répondre à cette question, tout simplement parce que je voudrais me limiter au problème qui s'est passé à l'Assemblée annuelle de l'AFO. C'est le problème qui frustre tous les enseignants issus de la diversité. C'est le problème que nous souhaitons qu'on en parle en ce moment. Peut-être qu'à côté, il y a d'autres doléances. Vous l'avez d'ailleurs dit en début de votre émission qu'il y a beaucoup de frustration que vivent les enseignants issus de la diversité. Ben, je ne voudrais pas me prononcer dessus.
Alors, l'AFO,
je n'ai pas eu le mandat de le faire.
Oui, c'est dommage, hein, parce qu'on voulait vraiment que l'AFO, voilà, une plateforme avec plein de gens à travers la planète, à travers la province qui nous écoutent. Malheureusement, l'AEFO préfère poursuivre le dialogue. Ça, c'est le message que nous avons reçu. Préfère poursuivre le dialogue directement avec ses membres sur la diversité plutôt que par l'entremise des médias. Nous avons, donc, il y a une déclaration là qu'ils m'ont envoyée. Mais c'est très, très, très court. Hein. Mais est-ce que vous avez une rencontre de prévue avec l'AEFO, Clément?
Oui, on a une rencontre. On a eu des échanges de courriels dans le organiser des rencontres. Mmh. Pour le moment, on a de la difficulté à trouver une date qui convient à tout le monde. Mais il se pourrait que les dernières dates qui ont été proposées, c'est les dates du 24 et 26 avril. Mmh. Donc, on espère bien qu'on aura l'occasion de d'avoir une rencontre à l'une de ces deux dates.
Mais tenez-nous au courant, on est de tout cœur avec vous. Ça, c'est une émission qui est témoin de tous ces débats dans la francophonie et il faut en parler. Je pense que c'est notre devoir de donner une voix à toutes les parties concernées afin que les gens créent un vrai dialogue pour faire avancer cette francophonie inclusive, n'est-ce pas? Clément, de la part de toute l'équipe, je vous remercie infiniment d'avoir été des nôtres. On se reparle très prochainement, Clément. Passez une bonne journée et bon courage.
Ok, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour, je me m'appelle Julie Lemieux, je suis journaliste au quotidien Le Soleil de Québec. Pendant plusieurs années, j'ai été victime de la radio poubelle.
As-tu vu Julie Lemieux ce matin?
Oui, elle est folle. Check là, parce que d'après moi, une fois que t'es partie, elle se roule la bille en regardant une photo du maire.
C'était dénigrant, là. C'était vraiment dénigrant pour une femme d'entendre parler de soi comme ça à la radio, là.
Et oui, les radios poubelles, bientôt à l'émission, madame, monsieur, c'est un débat. Et d'ailleurs, ces radios poubelles sont dans le point de mire du CRTC, donc les médias en parlent. Il y a même un livre qui en est sorti cette semaine à Québec. Bientôt, CUT 89,5 FM vous présente les dangers, les dérapages des radios poubelles au Québec. Est-ce qu'un jour cela pourrait arriver ici, à Toronto, en anglais ou en français? En tant que déguisement, très intéressant, c'est prévu pour le 24 avril prochain à l'Alliance française. Malheureusement, je ne serai pas là. Et là, on me dit peut-être qu'on a Rachel pour une minute, malheureusement. Rachel, est-ce que vous êtes au cours, vous êtes avec nous?
Bonjour.
Oui, malheureusement, nous avons essayé tout fait et là, on n'a pas beaucoup de temps. Vous avez entendu les propos de M. Hubert et de Clément?
J'ai entendu les propos de M. Hubert et de Clément. Je m'attarder sur les propos de M. Hubert qui veut ouvrir un dialogue. Je pense que c'est une belle parole, mais ça fait longtemps qu'on est en dialogue. Écoute, je suis née au Canada, je suis née à Ottawa, ça fait plus de 40 ans que je suis dans le système franco-ontarien. Des dialogues, on est fatigué d'en avoir, on sait qu'il y a un problème. J'aimerais l'entendre parler des actions qu'il peut faire pour adresser les problèmes de discrimination qui existent au sein des enseignants, des élèves. J'ai encore des séquelles du temps que j'ai passé dans l'école francophone, franco-ontarienne. Puis je me vois 20 ans plus tard, on parle encore de dialogue. On peut tout entendre, là. On t'a dit de parler, là. On peut faire des actions. Quand ça vient le temps d'embaucher des gens, on peut enlever les noms parce qu'on sait déjà qu'il y a des préjugés par rapport au nom de la personne qui postule pour un poste. Si on fait des applications où on enlève les noms, ça enlève ce préjugé-là qu'on sait déjà qu'au Canada, une personne avec un nom dit étranger a deux fois moins de chances d'avoir une interview que la personne avec un nom qui est Tremblay ou Thompson.
Mais vous savez, vous, votre nom, Rachel Descoste, oui. Ça pourrait passer pour, je ne sais pas moi, un peu franco, je ne sais pas, portugais peut-être?
Descoste. Effectivement, les gens qui regardent mon nom, seulement mon nom et mon éducation, pensent que je suis blanche, que je suis d'origine européenne. Ils apprennent ma race au moment de l'interview. Et puis, j'ai déjà eu des problèmes où quand on interview, ils me voient puis ils disent « Ah, on n'est pas sûr si on veut te louer l'appartement, on n'est pas sûr si on veut t'embaucher. » Ils changent de ton, je vois qu'ils me voient. Mais sur papier, j'étais qualifiée. Cependant, pendant l'interview, il peut y avoir un panel de gens qui font l'évaluation, pas juste une personne, qui me donne plus de chance. Il faut adresser les problèmes, arrêter d'en parler, déclarer d'en parler.
Tu sais, c'est ça que j'entends. On a reçu des messages d'ailleurs que je ne peux pas tout lire, tout dire, mais j'espère que les gens peuvent, dans l'imaginaire, penser un peu des souffrances que vivent ces enseignants professionnels. Hein. Et je ne parle pas seulement du corps enseignant, il y a des ingénieurs, il y a des conférenciers, il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires qui arrivent ici, surtout parce qu'on leur a dit « vous êtes bilingues », donc tout de suite, ils reçoivent leur permis de séjour et ils sont même canadiens après 3 ans, 4 ans. Je rappelle aux gens que vous êtes une femme engagée, activiste, chroniqueuse, spécialisée en diversité et multiculturalisme dans la région de la ville d'Ottawa. D'ailleurs, vous avez un très, très beau site. Allez sur le site www.racheldecoste.ca, madame, monsieur. Vous allez découvrir la perle rare. Comment se fait-il que, justement, on ne vous voit pas à la télévision, à la radio, plus souvent, Rachel?
Bon, j'y vais quand je suis invitée, mais j'ai toujours une passion de parler pour et de m'engager pour défendre la communauté d'où je viens et toutes les communautés visibles. C'est sûr qu'il y en a qui sont arrivés un peu plus tard que moi. Et puis, j'ai beaucoup à dire. Et je pense qu'une chose que j'apporte au dialogue, c'est l'histoire. Souvent, ceux qui viennent d'arriver savent pas que le dialogue vient pas de commencer avec M. Hubert et qu'il faut vraiment dénoncer pour dire que non, on a déjà parlé du dialogue, ça fait longtemps. qu'on est rendu à la partie action.
Vous savez, ça fait 30 ans, 35 ans que j'entends le même débat. Hein. C'est dommage. C'est vraiment dommage.
Oui. Ils nous prennent pour des valises. Oui.
Écoutez, Rachel, le temps passe. On me dit que Paris nous attend pour le point de l'information avec Radio France Internationale. On continue le dialogue avec vous et surtout un grand merci. On avait vraiment peur là de ne pas vous avoir à l'émission. À très bientôt. Au revoir.
D'accord.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The Sound of Your City Membership Drive, May the 6th to the 12th. Say yes to your campus and community radio station, CIUT FM 89.5, by making a donation now at CIUT.FM. Help us reach our goal of $100,000 for this fundraising campaign. All donors will be eligible for the grand prize draw of return airfare and hotel for two to Dubrovnik, Croatia, located on the beautiful Adriatic Sea. Stand by for additional details regarding the Sound of Your City membership drive, May 6th to the 12th. Say yes to CIUTFM 89.5 by making your financial donation right now at CIUT.FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Il y a la une de l'actualité, Michael Ponge, toujours le Soudan.
Et qui est au cœur d'un sommet extraordinaire. C'était hier, sommet sahélo-saharien. Les dirigeants appellent à une transition pacifique pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le général Abdel Fattah al-Burhan, à la tête du conseil militaire qui a destitué Omar el-Béchir, il promet la rupture avec l'ancien régime. Dans une allocution à la télévision nationale hier, il annonce la levée du couvre-feu, la libération des manifestants arrêtés ces dernières semaines, et il promet aussi que le gouvernement sera composé de civils. Il réaffirme par ailleurs que la transition ne durera pas plus de 2 ans. Les avocats et magistrats algériens annoncent qu'ils boycotteront la présidentielle du 4 juillet prochain, maillon essentiel pourtant de l'élection. Ils tenaient hier un sit-in à Alger. Comme chaque samedi depuis des mois, des milliers de personnes ont aussi manifesté hier dans le centre de Belgrade pour protester contre le chef de l'État serbe, Aleksandar Vučić, accusé d'autoritarisme. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants, selon les organisateurs.
Les gilets jaunes étaient 31 000 hier dans les rues de France.
Léger mieux par rapport à la semaine passée, avant les annonces d'Emmanuel Macron pour clore le grand débat. Cet acte 22 était aussi le premier depuis l'entrée en vigueur de la loi anti-casseurs. Plusieurs associations avaient d'ailleurs appelé à manifester à Paris contre le texte, loi jugée liberticide. Guillaume Rémy est membre d'Amnesty International.
Un acte qui est presque, on pourrait dire, un acte citoyen, que de prendre conscience et de faire partie de la politique de son pays et de dire « je vais manifester parce que j'ai des revendications à faire », et bien tout ça, ça devient un acte répréhensible presque, de plus en plus. C'est-à-dire, moi, très concrètement, aujourd'hui, on est arrivé Gare du Nord, il y a des gens qui étaient sans gilet jaune, hein, mais qui avaient juste des petites fleurs jaunes et on était un peu en groupe, on s'est fait arrêter, fouiller de fond en comble. Si on a des lunettes de protection, c'est considéré comme des armes, hein. Masque et des lunettes, on est considéré comme des voyous. Hein.
Qu'est-ce que vous répondez donc au ministre de l'Intérieur quand il dit que cette loi dite anti-casseur est pour lutter contre la violence?
Ben moi, j'aimerais bien qu'il se pose la question de pourquoi il y a de la violence. Je trouve que c'est vachement important. Oui, on s'est construit dans de la non-violence, on sent que c'est inacceptable, mais en fait, c'est comment on instrumentalise cette violence. Mais surtout, on ne se pose jamais pourquoi il y a de la violence.
Guillaume Rémy d'Amnesty International, il répondait à Laurence Théo.
Enquête en direct. Selon le résultat d'une étude parue dans le Toronto Star en 2015, de nombreux enseignants noirs en Ontario sont confrontés au racisme au travail. Ils sont 148 enseignants noirs dans 12 conseils scolaires de langue anglaise et ils racontent leur calvaire. C'est aussi sur le site de CTV Nouvelles à Montréal. Qu'en est-il dans la cour d'école francophone en Ontario? Qui a osé dire que 70% des enseignants blancs franco-ontariens considèrent que les enseignants issus de la diversité sont incompétents? Est-ce vrai ou une affaire montée de toutes pièces ou tout simplement une incompréhension, un malentendu plutôt? Et ça se discute avec les auteurs de ce fameux sondage que nous avons eu tout à l'heure au téléphone, des invités, y compris des enseignants, des experts, des historiens issus de la diversité. Envoyez-nous vos messages, vos commentaires immédiatement. On continue le débat. Pot pourri chaud, 33 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence. Et oui, quels sont les défis de représenter la diversité chez les enseignants francophones? Un texte de Jean-Marie Yamba Yamba de Radio-Canada. Très très bel article que je vous recommande. Il écrit, je cite, « Quelques pistes se sont imposées à moi dans ma réflexion récente sur le recrutement des enseignants francophones dans le contexte de la diversité culturelle dans l'Ouest canadien. Il semble difficile d'améliorer la situation sans qu'il y ait d'entente sur les questions que suscite la langue française, la culture, les compétences pédagogiques et la disponibilité des ressources. » On en parle dans un instant avec notre prochain invité. Il s'appelle Bertrand Indefo, fondateur et directeur de l'Educ Nation Consulting Inc., cabinet de consultation en éducation qui travaille avec plusieurs collaborateurs actifs en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, en Europe et en Afrique. Il est avec nous. Monsieur Bernard Indefo, bonjour et merci mille fois d'être avec nous aujourd'hui dans ce grand débat.
Bonjour Stéphane, c'est un plaisir pour moi.
Oui. Vos réactions sur ce que vous avez entendu jusqu'à présent?
Oui, j'ai écouté attentivement Monsieur Hubert, Monsieur Yonta et Madame Descos. Je voudrais dire que c'est regrettable toute cette polémique. Je ne vais pas entrer dans la polémique, je n'étais pas présent à ce congrès-là. Mais c'est regrettable toute la polémique parce que ça dessert malheureusement la francophonie ontarienne. En mettant en lumière le clivage qu'il ne devrait pas avoir entre des collègues, hein, entre des collègues issus de l'immigration ou des collègues issus de l'immigration beaucoup plus ancienne, des collègues blancs, comme vous avez dit. C'est dommage, c'est regrettable cette polémique.
Oui. Donc, est-ce qu'il faut en parler ou faut rester tranquille, d'après vous?
Vous avez bien fait d'en parler, de mettre ce point à l'ordre du jour de votre émission.
Alors, vous rencontrez beaucoup de monde, y compris dans le monde de l'éducation, en Afrique, dans les Caraïbes, au Québec. Ici, vous roulez votre bosse, comme on dit. Dans les formations que vous donnez à tous ces membres, est-ce que la diversité est un sujet qui préoccupe justement les employeurs?
La diversité est un sujet qui préoccupe de plus en plus les employeurs. Mais peut-être que ces employeurs n'ont pas forcément tous les outils nécessaires, n'est-ce pas, pour s'attaquer à la question de la diversité. Il serait intéressant, par exemple, lorsqu'on mène un sondage comme l'a fait Monsieur Hubert et son équipe, d'inclure, peut-être que ça a été fait, je ne sais pas, mais d'inclure des experts, des spécialistes, eux-mêmes issus de cette diversité, n'est-ce pas, pour composer les questions du sondage et pour éviter éventuellement, n'est-ce pas, des malentendus comme ceux auxquels on assiste aujourd'hui.
Alors, je dois rappeler aux gens qu'il y a plusieurs enseignants issus de la diversité qui ne voulaient pas que leur nom soit associé à cette émission, mais par contre, ils ont fourni des informations très, très pertinentes et importantes, je pense, pour qu'on arrive à cerner le problème, à bien comprendre le contexte, parce qu'ils ont peur de représailles. Moi, ma question que j'aimerais poser aux auditeurs, mais aussi à vous, si vous avez une réponse pour moi, que fait-on justement de ces gens qui sont trouvés comme racistes ou qui disent des propos très stéréotypés sur les personnes de race noire, les LGBT et tout ça? Est-ce qu'il y a des remèdes pour ces gens? Est-ce qu'on prend des mesures pour justement corriger le tir? Parce que on ne peut pas, à l'année longue, entendre des propos pareils de la part de certaines personnes dans notre milieu du travail et qu'il n'y ait pas des punitions.
Les employeurs, en général, ont des politiques d'inclusion, des politiques d'équité. Maintenant, il faudrait que chaque employeur s'assure de les faire respecter. Mais les sanctions ne règlent jamais complètement un problème, une situation. Voilà pourquoi l'éducation est essentielle. Et la meilleure façon d'amoindrir, n'est-ce pas, toutes ces questions d'ordre ethnique, racial, c'est d'éduquer nos jeunes à la diversité. Et je reviens à la polémique. Il est extrêmement important, si on veut vraiment que notre société aille de l'avant, et Mme Descôtes rappelait l'importance de l'histoire, il est très important qu'on forme nos jeunes à la diversité, qu'on leur donne des modèles d'ici, des modèles d'ailleurs, des modèles, pas seulement d'un point de vue ethnique, mais aussi d'un point de vue religieux, d'un point de vue toute la question du genre, etc., etc. Nos jeunes doivent être face à la diversité. Les écoles doivent refléter la diversité de la société ontarienne ou la société franco-ontarienne. Mmh. Et ce n'est qu'avec cette éducation, ce n'est qu'avec ces modèles, ce vivre ensemble, cette tolérance, cette inclusion effective, pas seulement l'inclusion des textes, mais l'inclusion effective dans les salles de classe, dans les écoles, au niveau aussi de la hiérarchie des entreprises, des conseils scolaires, etc. Ce n'est qu'à travers toutes ces actions-là que progressivement, parce que c'est un travail de très longue haleine, que progressivement on arrivera à vivre véritablement en harmonie. Mmh.
Vous avez un très beau site, d'ailleurs, il y a plusieurs de nos partenaires comme Ciné Franco, Mme Marceline, qui vous envoie des félicitations, mais aussi de très beaux messages. Je vous demande, Madame, Monsieur, d'aller sur le site de notre invité, educnationconsulting.com, et là vous allez voir, c'est en anglais et en français, vous faites du très très beau travail. Si on a deux minutes, j'aimerais continuer avec cet article de notre collègue de Radio-Canada, Jean-Marie Yamba, qui écrit « Voici mes questions. Quel visage la francophonie peut-elle raisonnablement prendre en milieu anglophone et en contexte multiculturel ? L'éducation en français, de quel français parle-t-on ? Des enseignants compétents, de quelles compétences parle-t-on ? Et enfin, comment, malgré tout, renforcer l'intérêt pour attirer davantage d'enseignants de ressources aux écoles francophones en milieu minoritaire ?» Il dit, je continue, « Tous les immigrants qui arrivent au Canada ont des difficultés. Ça ne dépend pas du fait qu'ils viennent d'Afrique, qu'ils viennent des États-Unis ou qu'ils viennent de n'importe où. Tous ceux qui arrivent ici ont besoin de s'adapter. Ils ont besoin d'un soutien pour leur adaptation. Il ne faut pas qu'on les exclue. » Il ajoute, « Je pense que tous les enseignants, peu importe leur provenance ou leur niveau d'expérience, ont saisi depuis longtemps que c'est essentiel pour une école de collaborer sur des approches pédagogiques, de collaborer sur des valeurs communes, d'avoir de l'entraide à l'intérieur d'un personnel. C'est essentiel à la réussite. » C'est bien, hein?
C'est bien dit, en effet. Ce sont des questions pertinentes auxquelles nous devons tous réfléchir.
Oui. Monsieur Bertrand Ndefaux, vous serez notre correspondant. De temps en temps, on pourra parler de questions sociales, économiques ou encore politiques ou éducatives, qui sait. Et vous avez des projets, là? Vous êtes au Canada en ce moment?
Je suis principalement basé à Toronto, même si ces derniers temps, je suis en contact avec la francophonie internationale. Oui. Et je suis pour terminer sur Londres que le monde francophone regarde le Canada. Mmh. Je comprends beaucoup avec des chefs d'établissement secondaires, post-secondaires du Cameroun, du Sénégal, de Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Ils sont très, très intéressés par le multiculturalisme et puis le multilinguisme canadien, notamment la place du français au Canada et en Ontario.
Vous savez, je pars à Paris ce soir et puis à chaque fois que je débarque à Rennes, à Paris, en France, partout où je passe, les gens veulent absolument venir au Canada. Je ne sais pas pourquoi. Surtout, les temps sont durs en ce moment pour certains en France. Donc, on a quand même cette image d'accueil, de responsabilité et d'équité. Mais une fois sur place, malheureusement, les gens rencontrent des situations assez difficiles et pénibles, malheureusement. Écoutez, c'est tout le temps qu'on a. On a un autre invité. Je vous remercie de la part de tout le monde. On vous applaudit, on vous remercie. On se reparle très prochainement, Bertrand. Au revoir.
Merci, au revoir.
Sur quelle planète suis-je tombé?
La planète Terre.
Bonjour. RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
c'est l'enquête en direct. Voilà, une nouvelle émission pour TFO Radio-Canada. Eh oui, nous essayons de faire notre possible. On veut vraiment qu'il y ait un dialogue, qu'on arrive à travailler ensemble, festoyer ensemble, danser, chanter dans notre différence. Eh oui, qu'en est-il encore une fois dans la cour d'école des francophones, madame, monsieur? C'est ce fameux sondage où on parle qu'il y a quelques éléments qui, en effet, avaient dit que les enseignants issus de la diversité n'étaient pas incompétents, mais peut-être il y a un malentendu. Selon l'AEFO, l'Association des enseignantes-enseignants francophones de l'Ontario, merci d'avoir envoyé votre petit message. Un article dans le journal Le Devoir, édition du 16 février 2019, a titré « La pénurie d'enseignants est si importante que des conseils scolaires du Canada français appellent à la rescousse des retraités ». Eh oui, il n'y a pas que le Québec qui manque d'enseignants. La pénurie s'étend aux conseils scolaires francophones de tout le Canada, où le recrutement de professeurs devient un défi pour des communautés minoritaires qui cherchent à préserver leur langue. Faute de professeurs, une université forme des suppléants, maîtres de la classe avec un simple certificat en poche. Et le 15 février 2019, un autre titre choc, une année perdue à cause de la pénurie de suppléants. Des écoliers ont vu défiler une dizaine de professeurs dans leur classe. On continue notre dialogue avec le docteur Amadou Ba. Il est conférencier sur l'histoire des Noirs au Nipissing University North Bay. Il fait très froid là-bas. Il est chargé de cours à l'université Laurentienne à Sudbury. Il est un collaborateur de notre émission. Nous sommes vraiment choyés, chanceux de l'avoir avec nous dans un instant. Professeur Amadou Ba, quel plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est la cerise sur le gâteau parce que vous allez faire le point de ce que vous avez entendu. Alors, ça va?
Oui, ça va et vous?
Oui, ça va très bien. Je sais que vous êtes avec la famille, mais est-ce que c'était important, vous pensez, d'organiser ce petit débat, cette émission sur la diversité et les enseignants?
Oui, je trouve que c'est important dans la mesure où ça permet aussi d'échanger et puis de partager des idées. C'est toujours positif quand même quand les gens communiquent.
Et vos réactions sur ce que vous avez entendu de nos invités précédents?
Oui, j'ai suivi toutes les quatre personnes qui sont passées. J'en profite pour adresser mes salutations à M. Benoît, à Clément, Rachel et à M. Bertrand Defoe. J'ai écouté avec attention ce qu'ils ont dit. Je pense que le malentendu a été levé au début parce que dans le rapport que j'ai lu, que vous m'avez envoyé, ce que dit M. Benoît, je pense que c'est pas la même chose. Il parle plus d'inclusion, de la diversité et que ça aurait été un malentendu, que ça n'a pas été dit. Il parle même d'incompréhension et de préjugés de certains enseignants, etc., etc. Donc, je crois que... en tout cas, Monsieur Clément aussi revient sur ce qu'il avait dit. Il garde ses propos, il confirme les propos que vous avez envoyés dans le courriel. D'où l'intérêt de débattre, de voir où se situe le problème et pourquoi on est arrivé à ce malentendu. Qui ne devrait pas être aujourd'hui, au XXIe siècle, dans le système éducatif d'un pays comme le Canada. Oui, donc ça c'est pour mes remarques. J'ai aussi écouté Rachel pour le partage de ce que c'est avec, comment elle s'appelle, Michel Defoe. Donc moi, pour conclure, résumer ce problème assez intéressant dans le domaine de l'éducation, et puis j'en parle dans mes recherches, je touche un peu le domaine de l'éducation, l'intégration des gens qui viennent d'ailleurs. Et moi, je le situe simplement parmi un des points les plus intéressants de l'héritage des Noirs ici au Canada. Je pense que vous avez eu la chance de regarder mon manuscrit la dernière fois, et où je disais que dans le domaine de l'éducation, donc, je faisais un rappel où plusieurs provinces ou conseils scolaires avaient même interdit aux Noirs de fréquenter les écoles d'enseigner des Canadiens d'origine européenne. Et ça, c'est dès la première moitié du 19e siècle. Certains conseils de provinces canadiennes légalisent donc la ségrégation et la discrimination raciale dans l'éducation. Par exemple, dans le Haut-Canada, en Ontario, on avait ce qu'on appelle la Common School Act de 1850, donc qui permettait l'établissement d'écoles séparées pour les Noirs, par exemple. Dans les Maritimes, on avait à Halifax aussi le conseil d'administration qui est passé en 1870, où un règlement excluait les Noirs dans les écoles publiques. Donc, ce problème aussi, il me semble qu'il y a encore un héritage des imaginaires critiques qui sont là, et malgré les beaux discours qu'on fait, malgré le travail que font certains, c'est des choses qui persistent. Donc, le premier problème auquel les enseignants issus de la diversité, en tout cas pour beaucoup ici de l'Afrique, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Afrique aussi, c'est un problème qui est lié aux imaginaires têtus, qui est lié à l'héritage de l'histoire qu'ils ont eu au Canada, et qui doit être simplement combattu justement par l'éducation. C'est justement ce domaine de l'éducation qu'on devrait utiliser pour combattre ces préjugés-là, pour combattre ces imaginaires têtus, pour combattre ces héritages un peu négatifs qui bloquent, qui empêchent certains enseignants d'intégrer, d'être acceptés et puis d'avoir des postes.
Quel est le rôle du gouvernement, des gouvernements? Parce que, je veux dire, le ministère de l'Éducation a aussi un rôle important à jouer dans ce domaine, n'est-ce pas?
Oui, absolument. Le ministère de l'Éducation, pour chaque province, hein, parce qu'on sait que l'éducation est gérée plus par les provinces, c'est simplement d'intégrer ces questions des minorités dans l'enseignement. Par exemple, j'aurais bien aimé, comme je dis, dans les cours d'études sociales, dans les cours d'histoire, de citoyenneté et tout, mettre ça dans les curriculums, enseigner, en parler plus, préparer des jeunes avec une ouverture beaucoup plus grande, parce que personne n'est responsable finalement de ce qui se passe. De la même façon, les gens qui se sentent discriminés, d'autres qui pensent que le travail il est à faire à tous les niveaux, de mon point de vue. Donc le plus important, c'est d'amener ces questions de façon sincère dans le domaine de l'éducation, d'enseigner cette histoire aussi pour que les gens y comprennent que nous sommes dans un pays qui réclame le multiculturalisme, l'ouverture, l'inclusivité, et que ça ne peut pas être acquis avec des paroles. Ce sont des actes, et puis ce sont des actes aussi qui doivent se répéter à long terme. Donc il y a un travail à faire dans le domaine de l'éducation, évidemment, au niveau des provinces.
J'ai reçu un message de Marc-Albert Cormier, il est conseiller des Français de l'étranger pour le Manitoba et l'Ontario. Il nous dit il y a un plafond de verre pour les minorités ethniques dans le milieu. Il y a un plafond de verre pour les Européens dans le milieu. Les minorités ethniques visibles sont utilisées par les employeurs et certaines associations pour maintenir un multiculturalisme de façade. Une minorité visible est plus utile qu'une minorité linguistique. On préfère la couleur à l'accent pour faire comme il faut. En revanche, je suis persuadé en mon fort intérieur que les allégations contre l'AEFO, je ne sais pas si on peut parler d'allégations en tout cas, sont une pure invention orchestrée dans un but politique. Qu'est-ce que vous avez à dire de ce commentaire?
Oui, absolument. Ça va toujours être exploité, ces choses-là, par la politique. On voit aussi de plus en plus de certains politiques. Les hommes ou femmes politiques n'hésitent pas à jouer sur les questions d'identité et toutes ces choses-là. Ce n'est pas surprenant, mais ça ne doit pas faire baisser les bras. Je crois que les gens qui pensent qu'ils sont discriminés, qu'il y a un problème, on devrait les écouter. Dire sa frustration, dire ses amertumes, ne veut pas dire simplement chercher des problèmes. On doit les écouter et puis aussi parler surtout avec des alliés. Il y a des gens qui sont là. Qui aimerait qu'il y ait beaucoup plus d'intégration des enseignants issus de la diversité, qui travaillent fort pour ça. Ces gens-là aussi, ils n'ont pas suffisamment d'éléments et d'atouts pour comprendre véritablement ce qui se passe. Donc, il faudrait qu'on évite les généralisations, voir aussi qu'est-ce qui ne va pas au niveau de certains les enseignants ici de la diversité pour qu'on pense qu'ils ne sont pas capables, entre guillemets. Pour moi, la capacité n'a pas de couleur, n'a pas d'origine, c'est simplement des perceptions. Mais peut-être qu'il y a un besoin d'adaptation parce que si je regarde, il y a beaucoup d'enseignants qui viennent au Canada avec une expérience de 10 ans, 15 ans en Afrique.
Mm-hmm.
Donc, mais pas tous, hein, pas tous, mais il y en a un bon nombre. Mais eux, par exemple, le système là-bas n'est pas le même que le système ici. Il y a une rigidité un peu plus forte. Il y a aussi la place de l'enfant dans la société canadienne et la place de l'enfant en Afrique, ce n'est pas la même chose. Donc, ces enseignants qui viennent avec une expérience très intéressante, c'est simplement de plus les appuyer, de plus les aider pour qu'ils puissent comprendre comment fonctionne leur société d'accueil et puis mettre en action les expériences qu'ils ont eues pour aider aller de l'avant.
Et vous savez, il y a quand même une frustration. Je suis convaincu que les gens vous écoutent attentivement. Mais comme Rachel, j'ai reçu beaucoup de courriels de la part des gens de coups de téléphone qui me disent « c'est peine perdue ». Regardez, posez la question, combien de surintendants de minorités raciales francophones sont dans des postes? Je n'ai pas de statistiques, je ne peux pas en parler.
Absolument.
Mais il faudrait que...
Je les comprends. Je comprends leur frustration. C'est justifié, c'est normal d'être frustré quand on pense qu'on n'est pas dans sa bonne place et tout ça. Mais je dis il ne faut jamais qu'on baisse les bras. Des deux côtés, on devra travailler fort. Et puis aussi, l'intérêt de la francophonie ontarienne et canadienne, ce n'est pas de faire en sorte que les enseignants issus de la diversité soient exclus. Parce que je crois que la communauté francophone du Canada a beaucoup un besoin énorme de ces gens-là pour que le français puisse vivre et grandir en Ontario et au Canada.
Mais...
Et si on veut le faire, on ne peut pas exclure l'Afrique parce que l'Afrique est l'enjeu aujourd'hui, est l'enjeu de l'avenir pour la francophonie. C'est ça où se joue la francophonie. Mais est-ce que les familles sont préparées à cela? Est-ce que les enfants sont préparés à cela? Est-ce que la société canadienne, dans sa globalité, est préparée à ce genre de discours? Moi, je crois que le problème, c'est aussi il y a une perception négative de l'Afrique dans le monde qui fait que partout où des gens originaires de ce continent ils vont, ils sont vus un peu comme incompétents, pas crédibles. Mais c'est des images, c'est des perceptions. Mais la compétence en tant que telle, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de... c'est autre chose, vous voyez?
Oui.
Ça, c'est autre chose.
Écoutez, docteur Amadouba, un grand merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Cela nous fait vraiment, vraiment plaisir. J'espère qu'un jour, vous serez en personne dans nos locaux, nos studios. Il faudra organiser peut-être un grand débat avec des musiciens. On fait la fête, mais aussi discuter des sujets très importants. Surtout avec les défis qu'on connaît avec nos gouvernements qui sont en train de sabrer dans les budgets, y compris la francophonie, les autochtones. Il y a comme un genre de pression là sur les groupes autochtones, la communauté LGBT, les francophones. On voit que voilà, il y a une coupure importante dans les services juridiques en Ontario. Ça va affecter les gens demandeurs d'asile, les réfugiés par exemple. Donc il y a des questions vraiment très très importantes et nous, la radio, on essaie de décortiquer dans un langage très simple avec des gens comme vous pour que les gens s'habituent et prennent conscience des sujets qui peuvent avoir un impact sur leur avenir, dans leur vie, n'est-ce pas?
Absolument.
Alors, docteur Amadouba, je vous remercie et je vous souhaite bon succès. Reposez-vous bien. On se reparle très prochainement. Au revoir.
Merci, au revoir.
CIUT 89.5, Toronto.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Ne parle jamais de ça à ta mère.
Pourquoi?
C'est notre secret.
Comment ça se fait que tu savais ça, toi qui étais parti chez son père?
La dernière fois que tu l'as vu, il était comment?
De bonne humeur. Il venait de s'acheter un laptop puis il était souriant.
Je suis vraiment content de te voir.
Moi aussi.
J'ai hâte de te présenter mon nouvel ami.
Et c'est mal.
Et oui, la tournée Québec Cinéma à Toronto pour l'événement Perspective Québec. On en parle tout à l'heure dans un instant avec la fondatrice de Ciné Franco, madame, monsieur. Et nous avons plusieurs billets à vous offrir. Ne partez pas, mais avant, nous allons à l'école de la mode à l'université Ryerson. Dans un instant, on vous revient.
Cette semaine, dans Francophonie, Marion Urban.
De l'exception à l'influence, comment réformer la politique culturelle de la France. Deuxième partie de la rencontre organisée par Francophonie avec le sénateur Louis Duvernoy, Jean-Claude Jacques, Daniel Guillaume et Fabrice Bousteau.
Francophonie, le magazine de l'espace francophone, présenté par Marion Urban.
Au chant de l'alouette, je veille et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors. On m'envoie au chant, c'est pour y cueillir. On m'envoie au chant, c'est pour y cueillir. Je n'ai point cueilli, j'ai cherché des nids. Au chant de l'alouette, je veille et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors. Je n'ai point cueilli, j'ai cherché des nids. Je n'ai point cueilli, j'ai cherché des nids. J'ai trouvé la caille assise sur son nid. Au chant de l'alouette, je veille et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors. J'ai trouvé la caille assise sur son nid. J'ai trouvé la caille assise sur son nid. J'ai marché sur l'aile et la lui rompit. Au chant de l'alouette, je veille et je dors. J'écoute l'alouette et puis je m'endors.
Dun dun dun, get dum bang bang, get dum bang, get debet debet.
Et oui, un bonjour spécial à tous nos amis de la Société d'Histoire de Toronto. Nous avons encore des messages. Le débat est terminé. Le débat est clos, malheureusement. Mais on va prendre quand même en considération tous vos commentaires. Et oui, il y aura l'Assemblée, 33e Assemblée Générale de la Société d'Histoire de Toronto. C'est prévu pour le lundi 6 mai à 19h à l'église Bloor Street United. Ah oui. Ils ont une salle là, 300 rue Bloor, et nous avons le plaisir d'accueillir une conférencière de la Société d'Histoire de Toronto, justement, qui donnera une conférence à l'Alliance française de Toronto le 24 avril. Et nous avons le plaisir d'accueillir Alison Matthews-David. Elle est à cette école de mode à l'Université Ryerson. Bonjour, Alison.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes très occupée, on le sait, c'est la fin de trimestre, mais on... quand même, on va prendre quelques petites minutes parce que l'émission est très chargée aujourd'hui. Alors moi, ça m'intéresse particulièrement. Vous allez parler « Vêtir le crime des déguisements et détections historiques ». Qu'est-ce que tout ça veut dire? Comment on peut utiliser des vêtements pour devenir des détectives?
Ou pour détecter les criminels aussi.
Oui, aussi, oui.
Également. Mais, oui, de beaucoup de façons, en fait. Il s'agit d'un projet de recherche que je fais. Il va y avoir aussi une exposition à ce sujet au Barachu Museum en octobre 2020. Mm-hmm. Et donc, c'est un livre et puis une exposition que je fais à propos des liens entre, généralement, entre le vêtement et le crime Et donc, le vêtement peut servir de déguisement, bien sûr, mais c'est aussi le vêtement utilisé ou l'accessoire en tant que arme ou de défense contre le crime. Ça peut être aussi comme ça peut être une indice très important. Mais le déguisement, c'est fascinant parce que en fait, on aimerait, comme des criminologues, historiquement, les criminologues aimaient beaucoup des marques permanentes sur le corps. Donc, par
comme
exemple,
des tatouages, par exemple.
Exactement, des tatouages, des cicatrices, des choses. Enfin, et puis, donc, tout ça qui pouvait être vraiment facilement repéré si quelqu'un était criminel un peu habituel. Mais le vêtement, c'est beaucoup plus compliqué. Je suis historienne de la mode, donc bien sûr, je vois par...
Vous savez, vous êtes vraiment une perle rare, parce que personne n'était au courant. Depuis que je fais la promotion de votre conférence, les gens me disent « Ah bon, il y a quelque chose de la mode à l'université Ryerson ?» On ne savait pas. Et en plus, oui. Vous parlez très, très, très bien français. Il faudrait passer régulièrement à l'émission pour
D'accord.
Alors, cette école-là de la mode à Ryerson, il y a beaucoup d'étudiants. Comment ça se passe? Quoi faire pour s'intégrer dans ce programme?
Ah, tout à fait. Il y a seulement deux programmes universitaires, donc quatre ans dans la mode. C'est le design et communication également, mais on a aussi un master's. Et donc, par exemple, on a 600 étudiants dans le baccalauréat, mais on en a environ 35 sur 2 ans dans le master's aussi. Et j'enseigne beaucoup dans le master's. Donc.
Moi, c'est l'aspect des criminels. Un détective qui peut-être peut trouver sa cible juste en ciblant certains vêtements, certains codes, certains tatouages.
Et, tout à fait.
Oui, et ça, c'est très compliqué. Je trouve ça bizarre, mais en même temps, c'est très intéressant, très passionnant. D'ailleurs, en Europe, il y a toute une historique dans la façon de s'habiller. Et on dit qu'on peut détecter la démarche, la physionomie, mais aussi le genre de pensée de personne à travers ses vêtements, à travers ce qu'il ou ce qu'elle porte.
Tout à fait, parce qu'en fait, historiquement aussi... les personnes, surtout les personnes des classes peut-être plus pauvres, n'avaient pas beaucoup de vêtements, en fait. Ils avaient des garde-robes très limitées. Donc, vraiment, les gens étaient complètement... leurs vêtements étaient connus des autres.
Oui.
Par exemple, et l'usure. C'est une marque importante. Surtout, on connaît bien l'image du détective qui est sur la piste du criminel par ses empreintes de pied.
Oui. Vous savez, quand j'étais jeune, moi, je regardais Columbo, hein, le détective Columbo. J'adorais ça. Malheureusement, il n'est plus des nôtres. Écoutez, on ne va pas vendre à la mèche. On va laisser languir les auditeurs à l'Alliance française, à 24 chemin Spadina. C'est le métro Spadina, madame, monsieur. Une très belle salle. Conférence de la Société d'Histoire. Vêtir le crime, déguisement et détection historique avec notre invitée conférencière, Alison Matthews. David, je vous merci beaucoup.
Et
je vous souhaite bonne chance et revenez nous voir. Cela m'intéresse.
Avec plaisir. D'accord. Au revoir.
Au revoir.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voile.
Adrabe la cosa, ding-dong.
Ding-dong.
Écoutez la planète chanter.
Identical twin son and daughter are going to show you the safety features of the Boeing 737-700 series. I'm so proud of these kids. To properly fasten your seatbelt, slide the flat into the buckle to release, lift up on the buckle. Position your seatbelt tight and low across your hips like Michael Phelps or his Speedo. If you get mad, you want to take your toys and go home. There's 6 ways to get there. 2 forward exit doors, 2 overwing window exits, 2 rear exit doors, signs overhead, disco lights on the floor, leave each exit. Everybody gets a door prize in the seat back pocket in front of you, along with dirty diapers, chewing gum wrappers, banana peels, and all that the gifts you leave for from time to time. It's a safety information card. Take it out, check it out. You'll notice in the highly unlikely event that the captain lends us near a hot tub, everybody gets their very own teeny-weeny yellow Southwest bikini. One size fits all. Take it out only if told to do so. Place it over your head. Wrap that strap around your waist. Buckle it in front. Pull the Titan. Once outside, pull down on the red tab to inflate to manually inflate blood of the tube at your shoulder. The flight attendants are coming by, hoping that you'll tell them how good looking they are. They're going to make sure that your seat backs and tray table are in their full, upright, and absolute most uncomfortable position possible. And your carry-on items are crammed and shoved completely under the seat in front of you, leaving absolutely no room for your knees or feet. As you know, it's a no smoking, no whining, no complaining flight. It's a please and thank you, and you are such a good-looking flight attendant flight. Smoking is never allowed on board at Southwest. If it costs smoking in the lavatory, the fine for that is $2,000, and if you want to pay that for your airfare, you should have flown somebody else. If we do make you that nervous the next 2 hours, you're more than welcome to step outside. We don't discriminate at Southwest. We've got a special smoking section just for you. We'll even show you a movie tonight. We have Gone in 60 Seconds. And the flight attendant serving you, her name is Wendy, and her motto is, if you can light it, you can smoke it. Federal law group is tampering with disabling or destroying any smoke detector or webcam in either of our laboratories. Federal aviation regulation require passenger compliance with the lighted passenger information signs and posted
flyers. Et oui, madame, monsieur, là, nous sommes sur le tarmac de l'aéroport Pearson en partance pour Paris et nous essayons de retracer notre invité. Et oui, madame, monsieur, nous sommes en direct du tarmac de l'aéroport Pearson en partance pour Charles de Gaulle. Et nous tentons d'entrer en contact avec la grande dame, la reine, la fondatrice de Ciné Franco qui vous invite à tout un événement pour bien démarrer le printemps, j'espère, qui sera des nôtres à Toronto. Et oui, Ciné Franco vous invite à l'événement Cinéma Québec, Cinéma Perspective Québec, et je pense que nous avons Madame Cinéma qui est avec nous. Marceline, bonjour. Marceline?
Allô?
Oui, est-ce que vous m'entendez,
Marceline? Maintenant, je vous entends, oui, voilà.
Oui,
merci.
Mais je pense qu'il y a un peu d'écho, hein?
Oui, en effet.
Oui, alors vous êtes sur le haut-parleur ou bien vous êtes sur...
Non, je suis au téléphone, en fait.
Oui, alors j'espère que... Parce que nous sommes actuellement à... Bonjour, madame. Alors, il y a beaucoup de passagers qui sont en partance pour Charles de Gaulle, Paris. Oui. L'avion part dans quelques minutes, mais on voulait absolument vous parler, vous dire bonjour et au revoir. Oh. Et donc, Perspective Québec, 19 et 20 avril, présenté en grande première des documentaires. Il y a aussi des courts-métrages. Et c'est tout un honneur hein, pour Ciné Franco de travailler avec le Bureau du Québec et le gouvernement du Québec.
Absolument. La tournée Québec Cinéma est notre partenaire, notre grand partenaire. Et c'est grâce à la tournée que nous avons des films extraordinaires en exclusivité torontoise et même en exclusivité ontarienne. Je pense à Une colonie. Je pense au vieillage et l'espérance. Nous aurons le bonheur d'avoir Fernand Dantreau qui va nous parler justement de son film. Nous avons un film extraordinaire, Noah, 18 ans, sur un jeune transgenre, très fier de l'être d'ailleurs, et avec Francine Hébert qui a gagné le prix franco-canadien du meilleur film au rendez-vous Québec Cinéma. Nous avons une très très grande variété de films en fait. En tant que réalisateur, nous avons la venue de Marc Bisaillon, qui était déjà venu à Ciné Franco en 2006 avec son film L'amour. L'amour qui est en fait, c'est un film à la fois fascinant, mais qui parle de silence coupable, qui parle de relations entre un fils et un père manipulateur, qui adore les armes. Et d'une famille recomposée. Je ne veux pas trop vous en dire parce que c'est un film qui se voit comme un tableau impressionniste un peu. C'est très très beau. Gold, c'est notre film de fermeture. Alors là aussi, ce sont des retrouvailles 10 ans après l'effondrement d'une mine et de camarades ou d'amis qui formaient un groupe rock. Alors il y a énormément. Enfin, pas énormément, mais il y a une très très belle bande son.
D'ailleurs, Nous sommes Gold, hein, d'Éric Morin.
Voilà.
Alors,
voilà.
D'ailleurs, nous avons un extrait de la bande-annonce.
Super.
Que nous allons proposer. Ça, c'est le film, le dernier film d'Éric Morin, madame, monsieur.
Oui.
Comme pour fermer ce petit mini-festival que voici.
Oh, fucking wake us up.
Je suis certain que vous pouvez me nommer un événement historique qui a eu un impact direct sur vous.
Effondrement de la mine?
Le vrai survivor veut vous parler! Le trou! Avez-vous vu le trou?
Eh oui, on voit le rock and roll du Québec. Alors, Éric Morin, j'ai ado. Malheureusement, je ne serai pas là. Alors, c'est un film ancré dans la réalité d'une ville minière, un long métrage intimiste, comme vous avez dit, qui suit le parcours de Marianne, une artiste qui revient dans sa région natale avec un événement tragique. Vous savez, le cinéma québécois a le vent dans les voiles.
Oui, c'est, tout à fait.
Je passe en France, je vais aux États-Unis, je vais n'importe où. Et on parle que du Québec, que du Québec. Comment expliquer justement tous ces... Surtout, ce sont des nouveaux talents hein, émergents qui font honneur à la culture québécoise et au Québec.
Oui, il y a une très très longue histoire de culture, mais dans le sens d'être cultivé, de cultiver le cinéma québécois. Grâce au soutien justement des cinéphiles, grâce au soutien du gouvernement, à la fois du gouvernement québécois et du gouvernement fédéral, il y a une très très longue histoire où on a tissé justement un goût pour le cinéma québécois. Et d'ailleurs, comme nous, ici, dans le Canada anglais, on achète les People, on achète... Eh bien, là-bas, au Québec, on achète justement... des magazines People qui parlent du cinéma québécois, qui parlent des vedettes du cinéma québécois. Et donc, il y a vraiment un lien, à mon avis, assez intime entre le cinéma québécois, les séries québécoises et le public.
Alors, je sais que dans les années 90, je ne sais pas où vous étiez, au tout début de 90, il y avait une certaine attachée culturelle au Bureau du Québec, Hélène Binette, et on se voyait régulièrement. Elle venait faire de la radio, promouvoir les produits et justement les films du Québec. Et elle me disait toujours que ce qui marche au Québec, qui devrait peut-être un jour se faire ailleurs au Canada, c'est d'avoir des têtes d'affiche. Des têtes d'affiches francophones, et c'est ça qui fait que le Québec, que les Québécois sont très connus parce qu'ils investissent dans la culture, dans les nouveaux talents, et ça crée des têtes d'affiches, ça fait le buzz, comme on dit. Et finalement, et d'ailleurs, si le gouvernement fédéral appuie si fortement et financièrement le cinéma québécois, je pense aussi que c'est pour préserver, parce que le cinéma... La radio, les chansons, la culture, ça fait partie pour renforcer justement et faire rayonner cette culture. Parce que sans
Absolument.
Le financement du fédéral et sans l'appui justement des bailleurs de fonds, ça aurait été très très pénible pour la langue et la culture du Québec de s'avancer. Donc il y a toute une stratégie derrière
Absolument. Moi, j'aimerais bien vous lire... Une citation que je viens de voir à propos justement du festival du film FIFOG, qui est le festival du film du Moyen-Orient en Suisse. Écoutez ce qu'il dit, le président d'honneur. Il dit « Faire l'éloge de la différence revient simplement à dire « Vivez avec et non contre les autres ». Le cinéma va loin dans cette évidence. Il nous permet d'accéder à l'amour, à l'amitié, à la connaissance, au savoir et au rêve.
Oh, c'est bien dit. Hein? Ça pourrait être le leitmotiv de notre discussion. Vous avez écouté un peu le débat là sur
tout
l'éducation?
À fait. Et tout à fait. Et moi, ça fait 46 ans que je suis là. Il y a 46 ans environ, si je partageais avec vous les insultes que j'ai eues quand je cherchais du travail en tant qu'enseignante, dans l'enseignement primaire et secondaire. Ça correspond exactement à la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'a pas changé, en fait.
Vous savez que on a reçu aussi, je ne peux pas les nommer, mais il y a une personne ou deux personnes qui m'ont dit « il ne faut pas parler, il ne faut pas donner la voix à ces personnes parce que tout ça, c'est faux, c'est de la rigolade ». Mais il y a des gens qui sont dans le déni complet, total.
Oui, oui, je sais. Et ça fait très mal. Parce que nous vivons dans une illusion.
Je ne peux pas parler de la situation présente parce que je ne suis plus impliquée directement dans l'enseignement. Mais après avoir enseigné à l'université York, je me suis retrouvée à rechercher donc du travail. Et si vous saviez ce que j'ai entendu...
Ils ont perdu une grande perle, une perle en or qu'ils ont perdue. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message, la résistance de l'amour.
Oui.
Il y a des gens qui sont formidables, qui nous écoutent. Alors le 20, 19 et 20, malheureusement, nous ne serons pas là.
Dommage.
Mais parlez-nous un petit peu justement des réalisateurs, réalisatrices qui seront sur place.
Alors nous aurons Fernand Dansereau, comme je vous l'ai dit.
C'est un, je veux dire, il est connu.
Il est très connu. Il a 91 ans.
Ah oui.
Et il va venir nous parler justement du vieillage et de l'espérance. Et c'est sa troisième, c'est sa trilogie.
D'ailleurs, sur ses films, Le Vieillage, il veut briser les tabous. Hein, quand
oui,
on regarde ses autres films, par exemple, parler du sexe. Est-ce qu'après 70 ans, il y a encore un sexe quelque part?
Voilà. à explorer. Ouais.
Moi, j'approche la 90, alors. Donc,
vous êtes en très belle forme pour 90, monsieur Eric. Alors voilà, mais Noah par exemple, Francine Hébert va venir, elle va venir nous présenter son court-métrage documentaire sur ce transgenre de 18 ans, qui est une véritable chrysalide, qui est une très très belle histoire avec beaucoup de fraîcheur et un aplomb, justement, de s'aimer. Et c'est très inhabituel dans la mesure où Noah ne s'érige pas en victime, bien au contraire. Il arrache à tout le monde ce droit d'être transgenre. C'est très, très beau. Pour Kia et Pew Duke, nous aurons la réalisatrice qui va être en Skype. Et alors, c'est la belle histoire d'une amitié entre deux petites filles, donc une qui est nouvellement arrivée à Montréal et qui est une des victimes de la guerre syrienne, et nous avons également avec Pew Duke qui est la petite fille inuite, et très très belle découverte des légendes, des mythes inuits, et en même temps de l'importance de la famille, de l'importance du legs que les grands-mères font. Très, très, très beau film. Alors, Une colonie, ce film, c'est une pluie de prix dans tout le monde.
Oui, alors ça, c'est le 19 à 21h,
voilà.
Une colonie de Geneviève Dulude de Selle.
Voilà, voilà. Elle continue, en fait, son exploration de l'adolescence. C'est son premier film narratif, en quelque sorte, et c'est tellement beau, cette petite fille de 12 ans qui, en fait, dans la vie, a 14 ans, c'est Émilie Bière, qui a gagné pour les écrans canadiens le prix de la meilleure actrice.
Ah oui, je vois. Mais...
C'est extraordinaire, et qui parle, alors il y a toujours cette présence justement de l'autre qui est l'autochtone, et de son identité par rapport à l'autre, et de comment l'autre également se définit par rapport à la discrimination des autres.
Oui, vous savez
c'est
qu'à
très,
RFI
très bon.
Et à TV5 Monde, ils sont émerveillés d'inviter des écrivains, des réalisateurs, des chanteurs autochtones de plus en plus.
Oui.
Et je suis très fier.
Oui.
Alors, le temps passe. Je rappelle aux gens d'aller sur le site de cinéfranco.com. Et nous avons des billets, d'ailleurs. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez faire des heureux.
C'est notre plaisir. On veut partager ces bonheurs avec tout le
exactement.
Monde.
Exactement. Hot Dogs Ted Rogers Cinéma, c'est où exactement?
C'est au 506 de la rue Bloor West, le métro Bathurst. C'est très, très, très accessible. Et, Et les places ne sont pas chères, vraiment.
Oui,
hein.
Oui. 19 et 20 avril prochain,
voilà,
madame, monsieur.
Voilà.
Et restez des nôtres parce que notre avion part dans quelques secondes. J'aimerais remercier avec vous monsieur Benoît Hubert, qui était notre premier invité, Clément Yonta Ingouné, Rachel Decoste d'Ottawa, elle parle, hein, cette dame.
Oui,
Bertrand Indefaux, que vous connaissez sans doute, professeur,
oui,
Amadouba.
Que j'admire.
Oui, professeur Amadouba, voilà, c'est une perle rare encore.
Oui,
est coincé quelque part à North Bay, mais
oui,
il voulait,
oui,
absolument. Et puis vous-même, cher Marcel, mais aussi nous avons eu cette dame qui parlait de la mode, Alison,
oui,
Matthews. Je trouve ça formidable.
Que je connais, qui est très charmante et très cultivée.
Oui. Et donc, allez voir, madame, monsieur, sur notre site www.popourichaud.com. L'émission sera téléchargée dans quelques minutes par nos experts en la matière de technologie. Et aussi, vous allez découvrir toute la programmation de la semaine prochaine en provenance de Paris. On va parler des Gilets jaunes, les rapports de ces consultations d'Emmanuel Macron. On va parler de Rwanda 25 ans après. On va parler de musique couleur tropicale. Enfin, il y a plein de l'autisme aussi. C'est un sujet dont on parle beaucoup en Ontario aussi. Alors, tout ça en français, bien sûr, et bien sûr avec Marcel Lynn pour clôturer cette dernière émission avant qu'on parte. On vous applaudit beaucoup.
Merci et bon
voyage.
Vous
aime. On vous aime beaucoup.
Merci.
Et puis, on va parler de vous en France. Hein.
Oh,
on
merci.
Va faire de la publicité pour vous. Donc,
super.
Ne soyez pas surpris si vous recevez quelques appels de madame, vous connaissez, le doux.
Allô, bonjour, madame. Ça va bien?
Alors, j'adore madame Ledoux.
Au revoir, en fait, je vous embrasse.
Merci.
Au revoir.
Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloirs au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne.
Non, tu n'as pas idée,
c'est chaud.
Pourquoi verbaliser,
c'est chaud.
L'ambiance est validée,
c'est chaud.
Le terrain balisé,
c'est chaud.
Laisse-les parler.
De ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mythe. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en saillais.
Non, tu n'as pas idée,
c'est chaud.
Pourquoi verbaliser,
c'est chaud.
L'ambiance est validée,
c'est chaud.
Le terrain balisé,
c'est chaud.
Laisse-les parler.
Carton rouge,
j'ai les oreilles qui sifflent.
Tout le monde
n'a pas idée.